nous essayons de comprendre comment, au plan politique, au plan philosophie politique, comment la famille, dans la perspective d'Aristote, fondement de la politique, de la communauté politique, est enracinée dans l'aspect économique. Faut pas l'oublier. C'est très important pour comprendre la force de ce fondement. N'oubliez pas ce que dit Aristote, que la première relation qui fait cette communauté familiale, c'est le maître et l'esclave. C'est l'époux et l'épouse. C'est les parents et les enfants. Donc, il y a dans la perspective d'Aristote, qu'a repris saint Thomas. Saint Thomas n'a rien ajouté à ça. Il l'a transformé dans une vision chrétienne. Mais philosophiquement, il a pris ce point de vue d'Aristote, la famille, fondement de la politique. Autrement dit, il est nettement aristotélicien et non pas du tout platonicien. Puisque pour Platon, c'est l'individu qui fonde la politique et non pas la famille. C'est pour ça qu'on est en plein platonisme quand on est dans le socialisme. Parce que c'est l'individu qui fonde la politique. Alors que pour Aristote, c'est vraiment la famille qui fonde le point de vue politique. Et la famille est dans cette triple relation. Relation économique qui, génétiquement, selon l'ordre génétique, donc selon l'ordre d'imperfection, est fondamental. L'aspect de la philia, donc d'amour, d'amitié, au niveau de l'époux et de l'épouse. Et Aristote est le premier à affirmer ça avec tant de force. Et puis, l'aspect de la procréation et de l'éducation. La paideia, l'éducation, c'est la relation des parents vis-à-vis des enfants. Et la paideia, vous savez bien qu'au point de vue grec, ça joue un rôle extrêmement important. L'éducation familiale est très vite saisie par l'État. Je ne sais pas ce que serait dans le concept aristotélicien, le concept d'une école libre. Ce serait du reste intéressant de se poser la question. Dans une perspective grecque, la famille qui doit éduquer, elle est tout de suite liée à l'État. C'est l'aspect politique qui a comme fonction principale la paideia. L'État doit éduquer des citoyens. Et la famille doit éduquer des hommes libres. Autrement dit, on retrouve au niveau de la paideia, au niveau de l'éducation, ces deux aspects qui sont tellement liés dans la philosophie d'Aristote, l'éthique et la politique. Je crois que l'éthique est personnelle, et à ce point de vue-là, elle est premièrement familiale. Mais l'éthique s'achève tout de suite en politique. Elle s'achève en politique tout en reconnaissant que le sommet de l'éthique, les deux sommets de l'éthique, sont au-delà du point de vue politique, l'amitié et la contemplation. Autrement dit, l'État, pour pouvoir survivre, a besoin de la famille et a besoin de la religion, la contemplation. Ce sont les deux dépassements. Alors, j'avais essayé avec vous de vous montrer comment la transformation de la famille, à cause du point de vue économique, l'aspect économique d'aujourd'hui n'est plus familial. C'est bien évident. Il y a encore des restes artisanaux qui sont l'entreprise familiale. Mais c'est de plus en plus rare. Il y avait encore des grands domaines avec le point de vue de la ferme qui restait familiale. Ça existe encore. Mais c'est de plus en plus rare. Autrement dit, et c'est, je crois, là, la grande transformation, c'est une transformation qui est de l'ordre du conditionnement humain, qui ne touche pas du tout à la structure de la personne et de la famille. Mais ça prend une telle importance dans notre monde d'aujourd'hui, il faut bien le reconnaître. C'est ce que Marx a saisi d'une manière si forte.
Difficile d'en sortir.
Mais on se demande si on peut en sortir, humainement parlant. La dialectique engendrant la dialectique. Et une fois quand on est pris par ce point de vue-là, on ne voit pas comment on peut en sortir. Puisque la politique n'est plus au niveau familial, n'est plus au niveau d'un pays. Elle devient internationale. Et comme elle devient internationale, vous comprenez bien que on est comme saisi dans un réseau et dans une perspective économique pure. On comprend très bien qu'on regarde les sommets économiques et qu'on n'essaie plus qu'une seule chose, c'est de faire un équilibre de ces sommets économiques. Vous savez bien, c'est la perspective de certains. Et c'est intéressant du reste à regarder ça. Mais c'est terrible aussi, parce que de fait, à ce moment-là, on ne se distingue plus du marxisme. Politiquement parlant, hein, comprenons bien, c'est le point de vue économique qui détermine. Que ce soit de droite ou de gauche, peu importe. L'homme disparaît. Et l'aspect politique prime. Donc, on assiste à cela. C'est un fait. Hein. La philosophie politique regarde les faits. En éthique, le fait est primordial. Je veux pas faire une politique idéale. Vous pouvez avoir ça dans votre cœur. Vous pouvez avoir un idéal monarchique dans votre cœur. Quand ça existe encore, c'est très bien. Cet idéal est une réalité. Mais quand ça n'existe plus, ça devient uniquement un idéal. Alors c'est pas la politique, ça. Une politique n'est pas une politique idéale. Vous retomberez dans Platon. Une politique doit être réaliste. C'est pour ça que constamment, au point de vue politique, vous êtes en face du moindre mal. Et ça se comprend très bien. Parce que si vous faites une politique idéaliste, il n'y a aucune efficacité. Alors, vous êtes le dernier des Mohicans. Vous êtes le dernier à porter le drapeau. C'est très beau, au point de vue honneur. Donc, au point de vue éthique, ça peut être très noble. Mais c'est pas réaliste. Ça manque de réalisme. Et beaucoup de positions du pape actuel ne se comprennent qu'en fonction de ce réalisme. Et quand vous critiquez le pape, c'est parce que, au fond, le critique au nom d'un idéalisme. Et donc on n'est pas dans une perspective politique. Parce que l'Église, elle est liée à cette politique. Forcément, ça ne peut pas être autrement. Quand j'ai dit elle est liée, elle est dedans. C'est la parole de Jésus. Je ne vous retire pas du monde. Non, vous êtes dedans, mais on ne doit pas suivre le monde. On doit comprendre. Alors, je ne vais pas regarder si toutes les incidences au point de vue économique qu'il faudrait un professeur serait intéressant du reste. Au point de vue économique, bien comprendre ces diverses positions économiques d'aujourd'hui. On voit très bien des noms. Et c'est intéressant parce que ce serait important de voir clair. Mais ordinairement, les économistes ne font pas beaucoup de philosophie. Même très peu. Alors, parce qu'ils ne font pas de philosophie, ils voient l'économie prise pour elle-même. Et alors, on a aujourd'hui des sciences économiques. Alors, qu'est-ce que ça représente exactement, les sciences économiques, voyez ? C'est comme la science psychologique, c'est la science sociologique. C'est un domaine dans lequel on essaie de saisir des lois. Et les lois ne sont pas du tout pour la finalité, c'est pour l'équilibre. L'équilibre psychologique, l'équilibre sociologique, l'équilibre économique. Vous voyez ? Donc là, il y a un problème philosophique très important au point de vue philosophie politique, c'est de comprendre le monstre il est saisi par ce point de vue purement économique, purement sociologique, purement psychologique. Que devient la finalité de l'homme? Je crois qu'on peut dire que l'homme est en situation limite. C'est-à-dire que l'homme, devant cette avalanche du conditionnement humain qui devient tellement impératif, que l'homme, la plupart du temps, n'arrive plus à découvrir sa propre finalité. Il est saisi au collet par le conditionnement économique, sociologique et psychologique. Oui. Et ça, c'est l'individu. Et on ne voit plus que l'individu, on ne voit plus que l'individu dans son travail, le travail réalisé du côté de l'efficacité. Et non plus le travail qui ennoblit l'homme et qui a une finalité humaine. C'est l'efficacité économique qui l'emporte. Bon. Je regarde ici l'incidence, nous y reviendrons. Je regarde ici l'incidence au point de vue famille. Je vous disais, la famille telle qu'Aristote et saint Thomas la conçoivent a un fondement, un enracinement économique. Donc une très grande stabilité. Et par le fait même aussi, une très grande autonomie. Si, de fait, ce point de vue économique n'est plus familial, n'est plus national, et devient international. Et international en touchant les sommets. Japon, Amérique, Europe. Vous voyez bien. Alors on touche quelques sommets, on dit qu'il faut faire cette espèce d'équilibre pour que le monde puisse vivre en paix. Et l'idéal devient négatif, qu'il n'y ait plus de guerre. On comprend du reste, je comprends très bien que c'est très important, mais ce n'est pas positif en vue d'une finalité. Que devient la famille? Alors, je vais prendre deux aspects. Deux aspects qu'on peut constater. On pourrait dire que ce point de vue économique n'étant plus le fondement de la famille va connaître une très grande libération. C'est une thèse qu'on peut soutenir. Je dis une thèse. Je libère la famille de quelqu'un, de quelque chose qui n'est pas la famille. Le travail, l'économie. L'homme travaillera en dehors de la famille. Donc ça peut être, je dis ça peut être, une libération de la famille. Quand vous regardez la famille telle qu'Hésiode la montre, on voit bien que la famille telle qu'Hésiode la montre est alourdie par le point de vue économique. Ce point de vue économique qui sort de la famille libère donc la famille pour montrer que ce qui constitue la famille, c'est l'amour de l'époux et de l'épouse. Cet amour ayant sa propre finalité, sa propre fécondité, et ayant cette fécondité dans l'ordre de la procréation, je peux donc considérer que grâce à ce point de vue économique qui sort de la famille, libère la famille, certaines libérations de la famille, et donc la famille pourrait être beaucoup plus pure. C'est un fait, je peux regarder ça comme ça. Je peux aussi regarder l'autre point de vue. Et dit, la famille va connaître une très grande fragilité. Elle n'aura plus cet enracinement économique. émanation de l'État. Et l'État lui-même dépend des autres États. Et donc la famille se réduit au point de vue économique, au point de vue autonomie, à une dépendance qui va très loin. La survie. Donc la famille connaît à ce moment-là une très grande fragilité. Une très grande fragilité à se demander si la famille peut encore avoir suffisamment d'autonomie pour une orientation dans l'ordre de l'éducation, de l'instruction. La paideia. Alors, si la famille connaît cette très grande fragilité, elle va être terriblement dépendante. Elle va s'amenuiser de plus en plus. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les enfants, quand ils sont petits, dépendent encore du foyer et même à l'école maternelle, qui fait que la famille de plus en plus s'amenuise. Et l'autorité des parents tend à disparaître. Puisque si l'éducation et l'instruction est en dehors de la famille, l'autorité devient l'autorité des maîtres. Et l'autorité des maîtres devient une autorité téléguidée par l'État, téléguidée par les idéologies. Qui en est en situation limite de la famille. Oui, je crois que ce que nous voyons actuellement, ce que nous assistons à cela, constatons cela, les optimistes et les pessimistes, vision optimiste de la famille, libération de la famille, vision pessimiste de la famille, étranglement de la famille. Et les deux sont vrais. Il y a quelque chose de vrai des deux côtés. La réalité, c'est qu'il ne faut pas séparer ces deux visions. Nous devons avoir ce réalisme suffisant. Je ne crois pas qu'on puisse aujourd'hui retrouver une autonomie économique suffisante pour la famille. Il y a encore des organes témoins d'un régime passé. Ça existe encore. Mais je crois que c'est juste la limite. Je crois. Ça ne va plus exister très longtemps. Parce qu'il y a une espèce de dialectique dans l'économie qui fait qu'on ne peut pas revenir en arrière. Est-ce possible, par exemple, imposez-vous le code tout simplement, est-ce possible, par exemple, que les pays veut dominer sur le monde entier pour la paix. S'il n'y avait plus que l'idéologie marxiste, il y aurait une seule idéologie, le désarmement. Hypothétiquement, pourrait diminuer, pour le désarmement pourrait se faire. La course à l'armement serait beaucoup moins. Il suffirait tout simplement d'avoir une police intérieure. Parce que la liberté des hommes, on n'arrivera jamais à la supprimer. On n'arrivera jamais à dominer l'homme par une idéologie. Donc il y aura toujours possibilité de revendication, de murmures, qui dans ce cas seraient peut-être d'excellents murmures, de murmures, et d'arriver à une solidarité toute différente, en opposition vis-à-vis de cette idéologie marxiste. Je crois qu'on n'arrivera jamais à unifier le monde par l'idéologie. On ne pourrait unifier le monde que par une finalité humaine. À ce moment-là, on pourrait retrouver un équilibre humain. Vous voyez, on en est loin. Et l'Apocalypse nous montre Gog et Magog. Si l'Apocalypse montre Gog et Magog, c'est symbolique pour montrer que l'humanité se terminera dans la dualité. L'unité. Parce que Gog et Magog, c'est les idéologies. Hein. Gog, Magog. Le Gog, il est dans le Magog. Et donc, vous avez deux idéologies, tout simplement. Deux idéologies. L'une de droite, l'autre de gauche. Mais deux idéologies qui luttent. Et il n'y a pas la dominante. Retrouver l'homme. C'est ça qui est terrible dans la dialectique. Hein. Quand on entre dans la dialectique, on n'en sort plus. Et la dialectique, par définition, implique la division. Puisque l'âme de la dialectique, comme on l'a dit, et c'est tout à fait juste, l'âme de la dialectique, c'est la division. Diviser pour régner. Diviser pour faire la synthèse. S'il n'y a plus de division, il n'y a plus de synthèse. Donc il n'y a plus de dialectique. La dialectique ne peut respirer que dans la division. Et la division implique nécessairement thèse et antithèse. Et donc droite et gauche. C'est impossible autrement. C'est pour ça que la dialectique engendre la dialectique. Et d'une certaine manière, ça continue indéfiniment. C'est pour ça qu'il n'y a pas de paix au niveau dialectique. C'est un mythe. La dialectique ne peut pas aboutir à la paix. La dialectique ne peut pas aboutir à l'unité. La dialectique ne peut pas découvrir la finalité. Elle engendre nécessairement la division. Je crois que ça, il faut le saisir intellectuellement au plan philosophique. Donc, je reviens à ce problème de la famille. La famille telle qu'elle est aujourd'hui. Et je parle au plan philosophique. On pourrait ensuite regarder la famille chrétienne. Parce que c'est quand même important de regarder les deux. Oui. Politique, familiale. La politique de la famille, elle a deux niveaux. Elle a le niveau humain et puis elle a le niveau chrétien. Parce que c'est vrai, il y a une famille chrétienne. Il y a une famille religieuse et une famille chrétienne. Donc au niveau familial, vous retrouvez les trois niveaux qu'on avait discernés au niveau éthique, personnel, humain, religieux. place d'abord au point de vue purement philosophique. Aujourd'hui, je dois donc constater que la famille peut utiliser cette situation pour remettre en pleine lumière que ce qui est la source de la famille, c'est l'amour de l'époux et de l'épouse. Et que la famille étant libérée du point de vue économique comme fondement, la famille peut retrouver un fondement plus pur qu'est l'amour de l'époux et de l'épouse. Oui, faites ce petit geste si vous voulez pour bien comprendre ce que je dis ici. La relation du maître et de l'esclave. Donc la relation du maître et du serviteur. Quelle est la relation parents et enfants. non seulement conditionné, mais déterminé par le point de vue des alliances de Manial. C'était ça qui commandait. Il fallait manier quelque chose d'important. Et c'était l'économie. Il faut le voir, ça existe, ça. C'est évident que ça existait. Aujourd'hui, il faut le reconnaître. Il y a quelque chose qui apparaît beaucoup plus net. C'est que la famille ne peut exister que s'il y a un véritable amour entre l'époux et l'épouse. Donc, le fondement de la famille apparaît dans toute sa pureté. Et cet amour de l'époux et de l'épouse ne pourra exister que si on est attentif à la procréation, c'est-à-dire le prolongement de cet amour d'amitié de l'époux et de l'épouse dans la relation des parents et des enfants. Parce qu'il y a un autre danger aujourd'hui, vous comprenez bien. L'autre danger, c'est de dire cet amour de l'époux et de l'épouse seul compte. Et les enfants, c'est un poids. Ayons le moins d'enfants possible pour pouvoir maintenir l'amour de l'époux et de l'épouse. Vous voyez, sophisme. Alors ça, c'est de la fausse purification. Et il faut bien voir que, de fait, c'est la grande tentation moderne. Parce qu'alors, on veut libérer d'une manière fausse l'amour de l'époux et de l'épouse. L'amour de l'époux et de l'épouse a ceci de particulier, c'est qu'il ne peut pas se séparer de la procréation, de la fécondité, et donc de la relation des parents et des enfants. Vous voyez, il y a une libération qui est vraie et une libération qui est fausse. Donc il faut bien voir ça. Et la famille est au milieu de tout ça aujourd'hui. D'autre part, alors je viens à l'autre aspect, reconnaissons que cette libération au point de vue économique, si elle met en pleine lumière le lien entre l'époux et l'épouse, cette libération fragilise la famille. La famille n'a plus son enracinement économique. Son enracinement, j'allais dire, dans le patrimoine familial. Le patrimoine familial s'amenuise de plus en plus. C'est vrai. Il faut bien reconnaître cela. Et donc, la famille n'a plus cet enracinement dans un patrimoine qui était quand même un aspect économique qui permettait à la famille avoir une autonomie. Donc, il y a ce point de vue de la famille qui connaît aujourd'hui une fragilité beaucoup plus grande. Cette fragilité devrait, étant donné le danger, quand on est fragile, on essaie de se fortifier. Comment se fortifier? Par une intensité d'amour plus grande. Donc cette fragilité devrait permettre à l'amour d'amitié de l'époux et de l'épouse de s'intensifier. Je crois que c'est la seule solution. Si cet amour se fragilise, si la famille qui connaît cette fragilité ne veut pas se fortifier de cette manière-là, elle va s'appuyer sur l'État. C'est évident, c'est un appui. Si elle s'appuie sur l'État, vous voyez bien, on tombe dans une idéologie étatique, le socialisme, qui fait que c'est l'État qui va, de fait, s'introduire de plus en plus dans la famille. Ce n'est plus la relation du maître et de l'esclave, c'est l'État. Avec l'anonymat de l'État. relation du maître et de l'esclave n'était pas anonyme. Tandis que l'aspect état socialiste implique l'anonymat du tout. Je prends n'importe quel socialisme, et toutes les modalités, tous les baptêmes possibles. Parce qu'en fond, il y a un socialisme chrétien. Je dis que le socialisme ne respecte pas suffisamment le fondement de la famille. Et fait que c'est la famille qui s'appuie sur l'État. Et donc qui trouve dans l'État le remède de sa fragilité. Il veut s'appuyer sur l'État. Et ce n'est pas l'État qui reconnaît que la famille a son autonomie fondamentale. Et la relation est inversée. Je crois que c'est de fait ce que nous voyons aujourd'hui. On comprend très bien cela. Philosophiquement, il faut saisir cette situation. À la fois d'une famille qui peut connaître une plus grande limpidité, mais qui connaît une plus grande fragilité. Fragilité, le phénomène de la peur augmente l'insécurité. Voyez un jeune foyer aujourd'hui, l'insécurité. Quand l'insécurité augmente, on voit très bien ce qui se passe. La peur est mauvaise conseillère. On le sait très bien. Quand la fragilité augmente, ou on tombe dans l'angoisse, ou on tombe dans toute espèce de psychose qui vous replie sur vous-même parce qu'on a peur, et ça brise le foyer. Et ça brise l'amour, d'amitié. Alors, en face de cette fragilité, il faut ou comprendre que l'amour peut être victorieux de tout. Un frère uni à son frère est une forteresse, dit l'Ecclésiaste. Et, voyez, et c'est là où on voit que la famille chrétienne, avec le sacrement de mariage, va rappeler que l'amour chrétien qui unit les époux est une forteresse. Et donc est victorieux de tout ce qu'il peut y avoir comme lutte. Et ça demande un héroïsme dans l'ordre de l'amour. Et c'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre. Et donc, le chrétien se trouve